Yann Hesler.
Bonjour, nouvelle saison, nouvelle ambition. Neuchâtel Xamax FCS a repris aujourd'hui les entraînements. Nous serons en direct depuis la Maladière pour nous entretenir avec le président de l'équipe. Les dysfonctionnements du service de l'action sociale de la Chaux-de-Fonds se retrouvent ce soir devant le conseil général. Le conseil communal a évalué le coût pour la ville à près de 1 725 000 francs. Déjà 3 semaines que la négociation d'un accord cadre avec l'Union européenne a échoué. Le conseil fédéral a dû rendre des comptes devant le conseil national ce matin. Et la journée continue à être radieuse dans la région avec un temps chaud et ensoleillé sans aucun risque d'orage. Retour aux affaires pour Neuchâtel Xamax. Le club de football neuchâtelois a repris l'entraînement aujourd'hui. L'équipe accueille d'ailleurs plusieurs nouvelles têtes. David Sanchez, vous êtes actuellement à la Maladière avec le président du club.
Oui, vous le disiez en introduction de ce journal, Yann, une nouvelle saison, une nouvelle ambition. Je suis effectivement à la Maladière en compagnie de Jean-François Collet, le président de Neuchâtel Xamax. Jean-François Collet, bonjour.
Bonjour.
Alors, je vais vous poser la question d'entrée. Quelle est l'ambition du club pour cette nouvelle saison ?
De faire le mieux possible, c'est toujours difficile de fixer des ambitions claires en début de saison quand l'effectif n'est pas au complet, quand on ne connaît pas non plus l'effectif de nos concurrents. Mais disons, c'est clair qu'on a essayé de construire une équipe compétitive. On espère que cette saison, on va pouvoir viser la première moitié du classement. Mais je crois qu'il faut laisser la saison débuter, puis on en saura un peu plus.
L'équipe compte déjà 6 renforts. Quels étaient les postes à pourvoir en priorité ?
Bon, on a cherché à renforcer l'équipe aussi, au niveau offensif essentiellement. C'était notre première priorité pour cette saison. C'est vrai qu'on avait pas mal de soucis l'année passée. Et puis, par exemple, on a pris un défenseur central gaucher qu'on n'avait pas la dernière année. On a essayé après aussi de rajeunir l'équipe en faisant venir des joueurs qui sont plus entre 20 et 28 ans que 28-35.
Vous avez d'autres renforts qui sont prévus avant la reprise ?
Il y aura encore quelques ajustements qui vont être faits, mais c'est vrai que là, il y a une grande partie du mercato qui est terminée.
Est-ce que la mise en forme de cet effectif se fait en étroite collaboration avec l'entraîneur, Andrea Binotto ?
Non, il y a une cellule de recrutement dans laquelle, bien évidemment, Andrea joue un rôle essentiel. Il y a aussi Sébastien Fonbonne, il y a aussi Tiziano Sorrenti, notre directeur qui participe, et puis moi-même. Donc on travaille les quatre, et puis chacun a une mission un peu différente. C'est vrai que les aspects techniques sont plutôt gérés par Fonbonne et puis Binotto. Et puis moi, je m'accroche plus aux aspects financiers.
On a l'impression que les profils des joueurs engagés jusqu'ici collent parfaitement avec la philosophie de jeu que souhaite développer votre coach. Est-ce qu'on doit s'attendre à un Xamax très offensif cette année ?
Alors écoutez, c'est clair qu'on aimerait avoir une équipe attractive l'année prochaine qui joue au ballon. On a essayé d'amener de la technicité aussi dans cette équipe. Donc notre objectif initial, c'est ça, c'est d'avoir une équipe plus joueuse. Maintenant, de nouveau, je pense que l'année passée, on n'avait pas prévu d'avoir un championnat aussi difficile. Après, au bout d'un moment, vous devez vous adapter en fonction de la situation réelle de votre équipe.
Une équipe plus joueuse, mais aussi plus jeune, hein, puisqu'on constate avec les transferts effectués jusqu'ici, il y a une claire volonté de rajeunir l'effectif.
Ouais, je crois que c'est une nécessité, c'est au-delà d'une volonté. Aujourd'hui, c'est vrai que Neuchâtel Xamax avait une équipe quand même qui était une des plus âgées en Super League. On a essayé de commencer à rajeunir l'année passée. On avait toujours, si vous regardez en moyenne sur le terrain, une des équipes les plus âgées. On essaye gentiment de faire baisser cette moyenne d'âge.
Le club offre la possibilité aux abonnés de la saison dernière de se réabonner gratuitement. C'est plutôt généreux, hein, c'est un beau cadeau, mais cela a un coût pour le club, surtout en période Covid avec les difficultés financières qui vont avec. Alors, est-ce que le club peut se le permettre, Jean-François Collet ?
Alors c'est clair que c'est un gros sacrifice. C'est vrai que si on compare à nos autres concurrents qui vont bénéficier aujourd'hui des revenus de leurs abonnés, ça fait une grosse différence. Mais moi, je pense qu'il faut aussi remercier les gens qui nous soutiennent, et les abonnés sont dans nos principaux soutiens. Et voilà, là, ça fait quand même 2 années qu'on a des années particulières avec ce Covid. Donc je trouvais difficile de demander aux gens aujourd'hui de repayer leur abonnement à 100%, alors que l'année passée, ils ont eu 4 à 5 matchs pour voir cette équipe.
Pour conclure, on peut revenir sur cet échange de propos entre vous et Laurent Walter et Raphaël Nuzzolo. Hein. Est-ce que vous avez pu avoir une discussion franche, mettre les choses à plat, sur la table ?
Non, maintenant, pour moi, c'est du passé. C'est vrai que voilà, c'était à la fin d'un match avec pas mal d'émotions. Pour moi, c'est la saison passée, j'y pense même plus. Maintenant, je me concentre sur cette année.
Très bien, merci Jean-François Collet, président de Neuchâtel Xamax. Dans le cadre de sa préparation, Neuchâtel Xamax va affronter Lausanne Sport dans 10 jours en match amical, puis ce sera au tour de Young Boys 3 jours plus tard.
Merci David, vous étiez en direct donc depuis la Maladière. La reprise du championnat de Challenge League est agendée, elle, au 23 et 25 juillet. En parlant encore du contingent Neuchâtel-Xamax qui s'est renforcé encore aujourd'hui, le club a annoncé l'arrivée de Karim Gazzetta en provenance du stade Lausanne-Ouchy où son contrat est arrivé à son terme. Le milieu offensif a signé jusqu'à la fin de la saison, enfin la saison prochaine avec option pour saison supplémentaire. Le conseil communal de la Chaux-de-Fonds tire le bilan des dysfonctionnements qui ont touché le service communal de l'action sociale. Le législatif de la métropole horlogère se penchera ce soir sur un rapport d'information. Il revient sur la très longue dérive du service dans le traitement des dossiers, le respect des directives. Il établit aussi le coût pour la ville à près de 1,7 million de francs, alors qu'une somme plus importante aurait été oubliée dans les tiroirs du service et ne sera pas remboursée par la métropole horlogère. Léonard Reichen.
Un gros navire avec beaucoup d'inertie. C'est ainsi que le conseil communal introduit ce rapport. L'exécutif y joue la carte de la transparence qui ressemble parfois à s'y méprendre à un mea culpa. Il ne cache pas les erreurs de la ville concernant un service qui a très mal vécu l'exécution de la nouvelle loi sur l'harmonisation et la coordination des prestations sociales. Le conseil communal reconnaît que l'évolution du service n'a pas été adaptée à la complexification des tâches et des directives, ce qui a inévitablement abouti à la crise. Reste la question du coût, très discutée ces derniers mois, y compris au législatif. 1 725 000 francs, selon calcul de la ville et du canton, développé dans le rapport. Un montant qui a été sorti du pot commun cantonal et facturé à la Chaux-de-Fonds. Mais il faut s'arrêter plus particulièrement sur un élément de ce total. Le rapport relève en effet un nombre important de dossiers oubliés qui ne faisaient l'objet d'aucune démarche de recouvrement des sommes devant être réclamées. 3,9 millions de francs sur la période 2015-2019 pour 699 dossiers analysés. Sur ce montant, celui d'une perte de 15% pour 450 dossiers et 30% pour 249 autres a été retenu par la facture sociale, respectivement les contribuables neuchâtelois. Le conseil communal veut maintenant tourner cette page douloureuse, à voir si le conseil général refermera lui aussi le livre aussi facilement ce soir.
Et toujours à la Chaux-de-Fonds, la ville veut bouger. Pour la journée olympique du 23 juin, la métropole horlogère organise un événement spécial de découverte sportive à cette occasion. La journée qui s'étalera de 9h à 22h comprendra 90 cours, ateliers et mini-conférences proposées par 31 acteurs et clubs sportifs de la ville. Trois semaines après l'annonce choc du Conseil fédéral de rompre la négociation d'un accord cadre avec l'Union européenne, Ignacio Cassis a dû rendre des comptes devant le Conseil national ce matin. Beaucoup de discours convenus, des critiques bien sûr, mais aussi du soutien pour le ministre des Affaires étrangères et le Conseil fédéral. L'UDC s'est montrée généreuse en compliments pour le gouvernement. On écoute la conseillère nationale genevoise, Céline Amaudru.
Il a fallu du courage et le Conseil fédéral en a eu. Le Conseil fédéral a simplement, mesdames et messieurs, refusé de signer un accord qu'il estimait désavantageux pour notre pays. Dans sa pesée d'intérêts, le gouvernement est arrivé à la conclusion que les inconvénients l'emportaient sur les avantages, ce qui l'a conduit à refuser de signer. Il a préféré la souveraineté dans l'effort plutôt que la vassalité dans le confort. Restons calmes, la Suisse ne s'est pas effondrée le 26 mai dernier. Ce n'est pas une sortie de route, c'est simplement la modification d'une trajectoire.
Les autres groupes politiques ont plutôt exprimé des critiques envers le gouvernement. Décevant pour le PS, incompréhensible pour les Verts libéraux, une erreur pour les Verts. Ignacio Cassis ne s'est pas laissé démonter. Il a répété que la Suisse veut rester un partenaire fiable et engagé de l'Union européenne.
L'évolution des relations entre la Suisse et l'Union européenne dépendra évidemment aussi de la réaction de l'Union européenne. Jusqu'à présent, la Commission européenne fait part avec retenue de sa déception sur la fin des négociations relatives à l'accord institutionnel et a annoncé une période de réflexion. Pour notre part, nous allons continuer à cultiver les contacts avec nos partenaires européens sur la base de nos plus de 100 accords bilatéraux qui restent en vigueur et sont applicables.
Un dossier préparé à Berne par Serge Jubin. Enfin, Joe Biden va arriver en Suisse ce mardi. Le président américain terminera ainsi sa première tournée européenne à Genève sous haute sécurité. Il doit rencontrer cet après-midi le président de la Confédération Guy Parmelin, le ministre des Affaires étrangères Ignacio Cassis. Une entrevue qui se tiendra avant le sommet très attendu demain entre Joe Biden et le président russe Vladimir Poutine.
12h25.
Le journal de l'Euro.
Avec le Lobby Bar à Neuchâtel, pour vivre intensément les meilleurs moments foot. Restauration sur réservation sur lobbybar.ch.
Et la nouvelle VVI D4 à découvrir chez Automobile Seine à Neuchâtel, Yverdon et La Chaux-de-Fonds. Automobile Seine, bien plus qu'un garage.
La bonne nouvelle du jour, Christian Eriksen a donné des nouvelles rassurantes. Le milieu de terrain du Danemark a dit ce matin aller bien malgré les circonstances. Il a posté ce message sur les réseaux sociaux 3 jours après avoir été victime d'une attaque cardiaque en plein match. C'était samedi face à la Finlande. Maintenant, je vais soutenir les gars de l'équipe danoise pour les prochains matchs, dit-il encore. Le Danemark qui va poursuivre son Euro, ça sera jeudi face à la Belgique, puis lundi contre la Russie. Mais place aux choses sérieuses pour le groupe de la mort aujourd'hui. Hongrie, Portugal, France, Allemagne, les premiers matchs du groupe F, c'est donc pour aujourd'hui. Ça commence à 18h à Budapest. Le Portugal remet son titre en jeu et face à l'adversaire le plus faible du groupe sur le papier, la Hongrie, c'est le match à gagner à tout prix pour les Lusitaniens. Mathieu Schaffner.
Oui, faux pas interdit pour Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers, mais attention, ce n'est pas une promenade de santé qui attend le Portugal en fin de journée. Les Lusitaniens vont évoluer en terrain hostile, le plus hostile de la compétition. La Puskas Arena, c'est le seul stade de ce championnat d'Europe à ne pas appliquer de jauge de spectateurs. Ce sera donc du guichet fermé à Budapest, 68 000 personnes, dont une grande majorité derrière la Hongrie. Il faudra retrouver ses repères pour évoluer dans une telle ambiance, ce qui n'est plus arrivé depuis un an et demi. Le danger ne viendra pas que des tribunes pour le Portugal. Les joueurs de Fernando Santos se souviendront de leur dernier match de groupe il y a 5 ans. Ils avaient arraché leur qualification grâce à un nul 3-3 face à qui ? Eh bien face à cette même Hongrie, en revenant 3 fois à la marque, le champion d'Europe en titre est prévenu.
Le Portugal qui entamera ce tournoi sans son défenseur João Cancelo, positif au coronavirus. Et en soirée, c'est le premier grand choc de l'Euro qui nous attend. France-Allemagne à 21h à Munich. Deux candidats à la couronne s'affrontent pour leur premier match de la compétition. Une affiche qui promet beaucoup, d'autant plus après les déclarations d'un certain Antonio Rüdiger. Mathieu Schaffner. Donc à 21h à Munich, on décrypte cette affiche en détail entre 13h et 13h30 dans le Café de l'Euro. Café de l'Euro, c'est aussi de la musique et de l'humour à déguster donc dès 13h.
Le journal de l'Euro avec l'Audi Q4 e-tron à découvrir chez Automobile Seine à Neuchâtel, Yverdon et La Chaux-de-Fonds. Automobile Seine, bien plus qu'un garage.
Dans quelques instants sur RTL, on vous propose le retour de la musique vintage avec notamment Tears for Fears, Shout, il y aura Bryan Adams, UB40.
Alors, il n'y aura pas de chanson française ?
Évidemment, on va vous en sortir, ne vous inquiétez pas, on va trouver ça. Du soleil, vous en voulez, vous allez en avoir, avec des températures en hausse, des températures estivales, 25 à 28 degrés, avec demain au petit matin, 14 degrés dans les montagnes neuchâteloises, qu'est-ce que je raconte, n'importe quoi, 11 degrés dans les montagnes neuchâteloises, 14 degrés en plaine, et plus tard dans la journée, 26 à 29 degrés, un poil plus de nuages le long des reliefs, mais normalement pas d'orage. Pour mercredi, en revanche, jeudi, une instabilité devrait s'installer en deuxième partie de journée et principalement en montagne. Vendredi, c'est instable pour tout le monde avec de probables averses.